écoutez Europe 1, il est 13h.
Europe 1, 13h.
Céline Géraud.
Bonjour à tous et bienvenue à bord. Europe 1 13h, vous le savez, c'est votre rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Dans ce journal, le gouvernement présente aujourd'hui son projet de loi de simplification. 50 mesures pour simplifier la vie des patrons et des particuliers. Explication. Ça se détend dans les gares, mais ça risque de coincer dans les aéroports. Moins de perturbations que prévu demain, mais les aiguilleurs du ciel brandissent désormais la menace d'une grève pour les ponts de l'Ascension. À quoi faut-il s'attendre? Europe 1 vous dit tout dans quelques instants. L'actualité, c'est aussi ces 200 jours après le massacre du 7 octobre et toujours pas d'accord de cesser le feu et de nouvel espoir pour les familles des otages. Dans cette Europe 1 13h, la France, championne d'Europe du nombre de centenaires, il y en a 4 fois plus qu'il y a 20 ans. Et puis Emmanuel Macron chausse les crampons pour un match du Variété Club de France cet après-midi dans les Yvelines. Un match au profit des pièces jaunes. Rendez-vous à la fin de ce journal. Il est 13h03, Géraldine Hamon, la tendance météo.
Agité et nuageux sur une grande partie du pays, soleil dans le sud-est, des températures en dessous des normales, 12 à 16 degrés en général, jusqu'à 20 degrés en Méditerranée. Météo complète sur Europe 1 à la fin de ce journal.
Europe 1.
Et on ouvre cette Europe 1 à 13h avec cette incertitude qui plane pour de nombreux voyageurs. Le principal syndicat des contrôleurs aériens a levé le préavis de grève pour demain. Il y aura malgré tout quelques perturbations dans les aéroports. Aurélien Fleureau, pour commencer, pourquoi cette décision de lever le préavis pour demain à la dernière minute?
Alors Céline, les détails ne sont pas encore connus, mais le ministre des Transports, Patrice Vergriete, vient de parler il y a quelques minutes d'un accord gagnant-gagnant. Ce qui est certain, c'est que les négociations entre le syndicat majoritaire, le SNCTA et la Direction Générale de l'Aviation Civile ont duré toute la nuit pour se terminer ce matin à 8h30. Les aiguilleurs du ciel protestaient contre le manque d'accompagnement social dans le cadre de la refonte de leur métier. L'objectif, c'est de les faire gagner en productivité, de moderniser le système de contrôle aérien français, s'aligner sur les normes européennes. Ils ont donc obtenu suffisamment d'avancées pour lever ce préavis en dernière minute. Et on peut évidemment penser à des augmentations de salaire et des jours de récupération.
Mais il y aura malgré tout des perturbations demain ?
Effectivement, pas de miracle. La DGAC a confirmé dans la matinée aux compagnies aériennes comme Transavia par exemple qu'elles devront supprimer un nombre important de vols. Impossible de faire marche arrière avec un tel délai. 3 vols sur 4 resteront annulés demain à Orly. 55% supprimés à Roissy. Les chiffres annoncés jusque-là, aéroport par aéroport, ont peu de chances d'évoluer positivement. Donc si vous avez un vol prévu demain au départ d'un aéroport français, évidemment, il faut prendre contact avec votre compagnie. Enfin, concernant le préavis de grève qui porte sur le pont le week-end de l'Ascension, pas de précision à ce stade. Logiquement, il devrait lui aussi être levé, mais attendons la confirmation, certainement dans les heures qui viennent.
Merci Aurélien Fleureau, spécialiste transport à Europe 1. Et pendant ce temps-là, à la SNCF, lundi, un accord a été signé avec les principaux syndicats pour aménager les fins de carrière des cheminots et des contrôleurs. La direction du groupe a donc cédé pour éviter une grève massive lors des ponts du mois de mai, mettant du même coup, on peut le dire, un sacré coup de canif dans la réforme des retraites adoptée au forceps. Une décision, Alexandre Chauveau, qui a fait vivement réagir la classe politique et notamment la droite.
Oui, avec des divergences entre Les Républicains et Reconquête d'un côté et le Rassemblement National de l'autre. ORN, Sébastien Chedu ne se dit pas choqué par cet accord et se range derrière l'argument de la SNCF, selon lequel il s'agirait d'un investissement de la compagnie susceptible de limiter les arrêts maladie en fin de carrière. On rappelle que le parti s'était fermement opposé à la réforme des retraites. Chez LR et Reconquête, en revanche, on dénonce un accord conclu au détriment du contribuable. Mario Maréchal rappelle notamment les 3,2 milliards d'euros de subventions déjà versées par l'État pour équilibrer la caisse de retraite des cheminots. Bruno Retailleau, lui, parle d'une capitulation et met en cause la passivité, voire la complicité du gouvernement. Il était l'invité ce matin de la grande interview de Sonia Mabrouk sur Europe 1.
Mais est-ce que vous croyez un seul instant, la SNCF, grande entreprise publique, qu'il n'y ait pas eu une information entre M. Farandou, le patron de la SNCF, et le gouvernement? Bien sûr que non.
Attends, vous
donc,
dire
c'est la complicité.
Ils étaient totalement, pleinement au
mais
courant
sûr,
de telle situation.
Les avez-vous entendus dénoncer cet accord depuis 48 heures? Rien. Silence total. Donc,
et Bruno Le Maire n'a pas souhaité commenter cet accord tout à l'heure à la sortie du Conseil des ministres, alors que la porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot, affirme que celui-ci ne contrevient pas à la réforme des retraites votée par le gouvernement l'an dernier.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Alors ces menaces de grève, ces chantages qui se multiplient à l'approche des JO, qu'en pensez-vous? Venez réagir dès 13h20, Europe 1 13h vous donne la parole.
Au 01 80 20 39 21, 13h07 sur Europe 1, la suite du journal, Céline Giraud.
L'actualité de ce mercredi 24 avril, c'est aussi le traditionnel Conseil des ministres. Alors à l'ordre du jour, le projet de simplification dont on va parler dans quelques instants. En attendant, Jacques Serret, vous êtes à l'Élysée pour Europe 1. Ce Conseil des ministres, c'est aussi l'occasion pour Emmanuel Macron d'échanger avec son gouvernement avant la présentation de son discours sur l'Europe à la Sorbonne demain.
Oui, et ce discours est prêt, c'est en tout cas ce qu'assure l'entourage du chef de l'État. Emmanuel Macron s'apprête à enfiler le costume de directeur de campagne. Il monte donc au front avec comme objectif premier celui de relancer la campagne de Valérie Ayer qui tourne à vide. Les sondages ne sont pas bons pour la tête de liste macroniste. Il s'agira bien d'un discours de chef d'État, précise l'un de ses conseillers, au cas où l'on confonde l'exercice avec un meeting. Cet événement, le président l'aborde avec concentration, glisse un autre proche. En 2017, lors de son premier discours de la Sorbonne, il s'agissait pour Emmanuel Macron de lancer son quinquennat. Il y a 7 ans, la séquence avait marqué les esprits. Les idées qui naissent à la Sorbonne deviennent concrètes, se félicite un proche du président. Défendre le bilan, donc, et surtout se projeter vers l'avenir. Reste à savoir si l'appui présidentiel sera un atout ou un inconvénient pour Valérie Ayer. Sur ce point, beaucoup sont partagés dans la Macronie.
Jacques Serret à l'Élysée pour Europe 1, 13h08, alors que l'insécurité ne cesse d'augmenter en France avec près de 1000 agressions par jour en moyenne. Je voulais partager avec vous cette initiative. Le village de Sermès, 250 habitants, c'est en Saône-et-Loire, eh bien, est le premier à tester une application pour lutter contre la délinquance. Elle s'appelle Je Préviens. C'est un réseau connecté entre voisins qui peuvent signaler une effraction par un simple message. Le reportage de Noémie Loisel.
Vol de voiture, tentative d'effraction ou encore cambriolage. Sur l'application, les habitants peuvent signaler ces infractions dans un périmètre de 3 km autour de leur domicile.
On l'envoie en fait comme un SMS en fait, et puis ça va effectivement prévenir toutes les personnes qui ont l'application.
Des alertes qui rassurent Daniel. Alors que cet agent de la circulation travaillait, il a été alerté sur son téléphone d'une tentative d'intrusion dans son garage, ce qui a permis à son voisin d'intervenir.
Le voisin est arrivé, en fait, il n'y avait plus personne. Le fait de que les gens soient un petit peu à l'affût tout et puis que préviennent, ça peut éviter effectivement le cambriolage. Ouais.
Un sentiment partagé par Fabrice, ce chauffeur de bus est souvent absent de son domicile.
Je pars à 6h30, je rentre à 8h le soir, ça fait quand même une grosse journée sans savoir ce qui se passe ici. Même quand je suis en vacances et tout, j'ai jamais vu une voiture de gendarme passer dans le quartier. Donc c'est bien s'il y a quelqu'un qui me dit « attention, il y a quelqu'un chez toi ».
Seule inquiétude, dans ce village, certaines personnes âgées n'ont ni téléphone ni internet et ne pourront pas télécharger l'application. Sermès, Noémie Loisel, Europe 1.
Europe 1, les 13h10.
13h, 14h, Céline Géraud.
Une quinzaine de lignes sur votre fiche de paie au lieu des 55 actuelles. Bruno Le Maire présentait ce matin au Conseil des ministres son plan d'action pour simplifier le quotidien des Français et celui des entreprises. L'objectif, moins de paperasse. Margot Faudéré, c'est un véritable choc de simplification qui a été présenté.
Oui, avec beaucoup de mesures concrètes, d'abord pour réduire les démarches administratives, à commencer par les fameux formulaires CERFA qui empoisonnent la vie des entrepreneurs. On en compte 1800 différents en France, 80% d'entre eux vont être supprimés d'ici à 2026 et la totalité d'ici à 2030. Autre exemple de suppression, la déclaration des arrêts maladie par l'employeur, comme l'a expliqué ce matin Bruno Le Maire.
Le salarié va voir son médecin, il y a une déclaration d'arrêt maladie qui est faite, qui est renvoyée à l'employeur, que l'employeur doit à nouveau renvoyer à l'assurance maladie alors même qu'elle l'a déjà. Donc ça fait de l'encombrement. 15 millions de déclarations seront supprimées immédiatement dès cette année.
Ce n'est pas tout. Bruno Le Maire veut aussi simplifier les règles de commande publique. Aujourd'hui, à chaque fois qu'une entreprise souhaite participer à un nouvel appel d'offres, elle doit se déclarer auprès de l'administration. Demain, elle pourra créer un dossier unique en ligne qui servira pour chaque commande. Le plan d'action du gouvernement prévoit aussi de réduire le nombre de normes. Selon le Sénat, elles coûtent chaque année près de 60 milliards d'euros à la France. Cela passera notamment par l'instauration d'un test PME pour vérifier l'utilité réelle de toute nouvelle norme sur le terrain avant de la mettre en place.
Les explications de Margot Fodéré du service économique d'Europe 1. Cela fait 200 jours que la guerre entre Israël et le Hamas a débuté. 200 jours depuis les massacres du 7 octobre. 1140 personnes, essentiellement des civils, ont été tuées. 250 autres kidnappées. Un traumatisme avec lequel la société israélienne tente de continuer à vivre. Le reportage de la correspondante d'Europe 1 à Tel Aviv, Ariane Ménage.
Depuis 6 mois, Rachel et Doron se relaient sur la place des otages. 6 mois que ces deux psychologues d'une soixantaine d'années ont installé ici une tente et quelques chaises. Ils proposent des premiers secours psychologiques.
Les gens viennent nous parler de la situation et nous raconter comment ils se sentent.
Ici, ils rencontrent, semaine après semaine, des victimes directes du 7 octobre, leurs proches ou de simples citoyens, encore choqués par ces massacres et la faillite de l'État ce jour-là.
Je crois qu'il y a encore beaucoup de désespoir. Et puis, le sentiment qu'il n'y a pas de progrès ni de solution. La grande question, c'est comment revenir à la normale dans une telle situation.
Car 200 jours après le 7 octobre, les buts de guerre annoncés ne sont pas atteints. Plus de 130 otages sont toujours détenus à Gaza. S'ajoute aussi la menace de voir la guerre s'étendre sur d'autres fronts. Tel Aviv, Ariane Ménage, Europe 1.
13h12, le saviez-vous, la France est championne d'Europe des centenaires, selon une étude de l'Institut National des Études Démographiques dévoilée ce matin. Eh bien, le nombre de centenaires ne cesse d'augmenter ces 20 dernières années. Et Yasmina Katou, les femmes sont de plus en plus nombreuses à atteindre cet âge canonique.
Oui, 86% des centenaires sont des femmes et même 90% des super centenaires, c'est-à-dire des plus de 105 ans, sont des femmes. Au total, on compte 31 000 centenaires français, soit 30 fois plus qu'il y a 20 ans. Alors, difficile d'expliquer clairement cette surreprésentation féminine. Plusieurs facteurs entrent en jeu, notamment le suivi médical des femmes au cours de la vie, qui est plus important, notamment grâce à la grossesse. Par ailleurs, l'étude montre que les champions de la longévité sont les Antillais. Il y a 8 fois plus de super centenaires en Guadeloupe et en Martinique qu'en métropole. Un phénomène encore mal compris des chercheurs, mais plusieurs pistes sont avancées. En fait, il y aurait eu une sorte de sélection naturelle au moment de la traite des esclaves. Au fil des siècles, seuls les plus robustes des esclaves ont survécu dans des conditions de vie extrêmes. Les descendants d'esclaves pourraient donc avoir développé des gènes particuliers. Cette hypothèse reste à confirmer. En tout cas, aujourd'hui, notre doyenne à nous vit en Vendée. Marie-Rose Tessier fêtera ses 114 ans le 21 mai prochain.
Merci Yasmina Katou, spécialiste santé à Europe 1.
Il est 13h14 et cet après-midi, Emmanuel Macron rechausse les crampons Céline pour un match de football au profit des pièces jaunes.
Oui, 2 ans et demi après son dernier match avec le Variété Club de France, le président de la République remet ça sur la pelouse de plaisir, c'est dans les Yvelines, aux côtés d'une belle brochette de stars du football. Cyril de la Morinerie, vous allez suivre ce match pour Europe 1, vous êtes déjà sur place. Le président sera très bien entouré cet après-midi.
Ah, c'est le moins que l'on puisse dire, hein. Céline, Emmanuel Macron va jouer milieu de terrain avec le maillot numéro 9 et il sera entouré de Didier Deschamps, du légendaire Johan Niskens qui a été l'ancien donc coéquipier de Johan Cruyff, notamment à l'Ajax Amsterdam. Devant donc cette équipe du Variété Club de France, il y aura Eden Hazard, Didier Drogba, Robert Pires et en défense, on va retrouver la paire magique des Bleus de 98, Marcel Desailly et Laurent Blanc. Emmanuel Macron qui avait transformé un pénalty lors de son dernier match avec le Variété est un très bon footballeur à en exclusivité, Marcel Desailly ce matin, donc c'était au micro d'Europe 1.
On est serein parce qu'il nous a montré qu'il était au fait des choses lors du match précédent que l'on a fait avec lui dans le cadre des pièces jaunes. Donc encore une fois, on est ravis de l'avoir à nos côtés. Il sera un coéquipier comme les autres et on le rappellera à l'ordre s'il le faut. Mais oui, et alors, et pourquoi?
Vous l'avez entendu, il sera le président de la République, un coéquipier comme un autre, peut-être, mais pas sûr quand même. Laurent Blanc, que l'on surnomme dans le football le président, va évoluer avec le président, le vrai président.
Je sais que le football l'intéresse beaucoup, je sais qu'il a beaucoup d'intérêt pour l'Olympique de Marseille. On va essayer de s'amuser d'abord,
bah oui.
Que ce soit pour lui ou que ce soit pour nous. Et je sais que ce monsieur doit apprécier ces moments-là parce qu'il ne doit pas être souvent présent dans son emploi du temps.
Et voilà, coup d'envoi de ce match à 17h, à plaisir dans les Yvelines.
Merci, c'est que du plaisir. Merci Cyril de la Morinerie, évidemment, petit vénard, avec nous en direct dans Europe 1. Allez, 13h16, un point sur les marchés maintenant avec vous, Didier Hamot de boursier.com, et ça monte gentiment.
Oui, tranquillement, plus 0,3%, le CAC 40, 8135 points, dans un marché qui réagit toujours aux publications de résultats trimestriels des entreprises. Le secteur du tourisme aujourd'hui est en vue avec la Compagnie des Alpes, Voyageurs du Monde aussi, et Pierre et Vacances, qui progresse de 9 à 10%. En revanche, rien ne va plus pour Kering, qui chute encore de 7%, 324 euros au plus bas depuis près de 7 ans. La marque phare du groupe de luxe Gucci a vu son chiffre d'affaires reculer de 19% au premier trimestre, sous la pression du repli de ses ventes en Asie. Et donc, résultat, Kering en baisse, en forte baisse de 7% à 324 euros. Ailleurs, c'est assez calme, ça monte. Hein, Francfort, plus 0,3%, Bruxelles, plus 0,4%, le CAC 40, plus 0,35%, 8135 points.
Merci beaucoup Didier Hamot de boursier.com et rendez-vous ce soir à 19h dans le journal d'Hélène Zelani. La météo maintenant avec vous Géraldine Hamon, temps très nuageux et pluvieux. Hein.
Exactement, avec des averses fréquentes sur le nord et le nord-est qui seront accompagnées de rafales de vent et de petites grêles. Le ciel sera un peu plus variable de la Normandie au centre-val de Loire ainsi que sur l'ouest de la Bretagne avec quelques averses éparses et quelques éclaircies aussi ailleurs. Soleil étant sec, c'est ce qui vous attend des plaines du Roussillon et du Languedoc jusqu'à la région PACA. Mais attention puisque le Mistral et la Tramontane reste assez soutenu avec des rafales de l'ordre de 70 à 80 km/h. Il fait froid aussi, vous l'avez constaté. Les températures sont en dessous des normales de saison. Il fera 9 degrés à Charleville-Mézières, 10 à Nancy, 12 à Paris, 14 à Biarritz, 15 à Nice, 16 à Brest, 17 à Marseille, jusqu'à 18 degrés à Nîmes. Et demain, ce sera un temps dégradé, couvert avec des pluies au sud-ouest, ensoleillé et un peu moins de vent au sud-est, souvent très très nuageux. Ailleurs. Voilà, c'est une pour le programme.
Merci beaucoup Géraldine Hamon. On est ensemble jusqu'à 14h. Surtout ne bougez pas dans quelques instants avec vous. Et on va décrypter l'actualité également avec Charlotte Dornelas et Naïma M. Fadel. Alors on reviendra sur ce chantage, on peut le dire, avant les JO, après la SNCF, les contrôleurs aériens. Qu'en pensez-vous? Les élections européennes, selon un sondage, 38% des électeurs musulmans comptent voter pour la liste LFI. Et puis après Béziers, couvre-feu dès le 1er mai à Nice pour les mineurs de moins de 13 ans. L'idée fait son chemin, notamment du côté des maires et du gouvernement. Venez réagir, Europe 1 13h vous donne la parole.
Au 01 80 20 39 21 13h 14h, Céline Giraud vous informe sur Europe 1.
Europe 1 13h.
De 13h à 14h avec Céline Giraud sur Europe 1 et vos deux chroniqueuses du jour, Céline, pour décrypter l'actualité. Naïma M. Fadel, essayiste et la journaliste au journal du dimanche, Charlotte Dornelas.
Bienvenue à bord, mesdames.
Merci.
Nous sommes trois femmes. Un studio 100% féminin aujourd'hui pour décrypter l'actualité avec vous, chers auditeurs d'Europe 1, et jusqu'à 14h. Alors évidemment, on va revenir pour commencer sur cette incertitude, cette menace qui plane pour de nombreux voyageurs dans les aéroports, puisque même si le principal syndicat de contrôleurs aériens a levé son préavis de grève pour demain, il y a quelques incertitudes, quelques perturbations à prévoir. Voilà, et on, quand on sait qu'il y a les ponts du mois de mai, les JO, bien sûr, le chantage n'en finit pas. Ça peut déranger Naïma M. Fadel, parce que quand on voit le statut des aiguilleurs du ciel, qui est quand même très avantageux, avec une retraite à 59 ans, une semaine de 32 heures, ça dérange.
Bien sûr que ça dérange, mais comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, parce qu'on est toujours malheureusement pris en otage, on ne peut pas prévoir nos vacances, aller voir notre famille, nos familles, etc., sans avoir malheureusement l'épée Damoclès, que ce soit de la SNCF ou des aiguilleurs d'avions ou des pilotes, etc. Ça, c'est sans fin. Ce qui est inadmissible, c'est que le gouvernement n'arrive pas à réagir pour que nous, Français, ne soyons pas pris en otage. Mm-hmm. C'est ça qui est... Et là, quand vous voyez ce qui se passe avec la SNCF, je pense qu'on...
Oui, on a va prévu d'en parler, évidemment.
On va
c'est,
en parler,
c'est
mais...
C'est le même sujet.
Ben, c'est le même sujet, voilà. Donc, effectivement, la SNCF et l'État capitulent, en fait.
Là, la direction a capitulé.
Voilà, pour que les JO se passent très bien, mais c'est scandaleux, en fait. C'est que, en fait... En termes d'accès aux mêmes droits, là, il y a un problème. Il y a une rupture de l'accès aux droits et la réforme des retraites qui a été mise en place, qui devait impacter que ce soit le public ou le privé, sachant qu'elle impacte beaucoup moins le public. Aujourd'hui, on voit que malheureusement, la SNCF, les cheminots, etc., arrivent quand même à s'en sortir au détriment des contribuables que nous sommes.
Alors, Charles Dornelas, les aiguilleurs du ciel qui parviennent à leur fin, la SNCF aussi qui capitule face à la menace des syndicats.
Et le gouvernement avec, parce que j'imagine mal la direction de la SNCF
prendre cette disposition qui en effet contourne la réforme des retraites sans l'aval du gouvernement aujourd'hui. Là, je pense qu'on paye à la veille des Jeux Olympiques des années en fait d'un traitement égal de ces problèmes-là. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une revendication, on a l'impression que la discussion est impossible, la négociation est impossible. C'est extrêmement radical. Et donc là, évidemment, à la veille des Jeux Olympiques, quand vous n'avez jamais tenu ce bras de fer avant, c'est pas à la veille des Jeux Olympiques que vous allez le faire. Donc évidemment, là, en ce moment, les aiguillères du ciel, ça touche les gens qui sont en vacances, parce que Paris ne l'est plus, mais le reste de la France l'est. Il menace de le faire pendant le week-end de l'Ascension, qui est en plus cette année rallongé par le 8 mai, on va dire. Et évidemment, quand vous avez déjà des préavis de grève en juin et que s'approchent les Jeux Olympiques, c'est évidemment ça la crainte, c'est d'acheter la paix du transport, on va dire, pendant les Jeux Olympiques, parce que évidemment la France ne peut pas se permettre de ne pas avoir de transport pendant les Jeux Olympiques. Donc c'est le pire moment pour l'État pour négocier, et comme ça n'a pas été fait avant et que jamais ce sujet-là n'a été
envisagé. Les Jeux Olympiques, c'est tous les 100 ans, hein, donc après.
Non, mais pas par rapport aux Jeux Olympiques, justement, parce que ça handicape.
Ça, c'est un levier. Voilà,
ça handicape la France et beaucoup de Français extrêmement régulièrement. Et je le dis, en Europe, où la question des droits sociaux des uns et des autres est également répartie, on va dire, je ne compare pas avec d'autres pays dans le monde où c'est incomparable, on a des taux de grève et des jours de grève, c'est incomparable aussi. Donc la France a quand même un recours à la grève qui est quasiment systématique, à la place de la négociation. Et dans une négociation, il faut que les deux parties comprennent dès le début qu'en général, on arrive à un accord, on n'obtient pas tout ce qu'on veut tout le temps. C'est ça aussi le principe de base qui a l'air d'être oublié par certaines parties, évidemment, qui jouent leur va-tout à la veille des Jeux Olympiques parce qu'ils savent
bien sûr.
Le gouvernement n'a pas le choix. En fait.
Et Bruno Retailleau, ce matin, le patron de LR, qui disait c'est un accord catastrophique, c'est un accord qui insinue qu'on peut être payé sans travailler, c'est une forme d'euthanasie du travail. par rapport à cette, justement, ça permet d'effacer cette fameuse réforme des retraites, Naïma M. Fadel, qui avait été adoptée au forceps.
Oui, mais c'est pour ça que les Français ne peuvent pas comprendre. Comme on ne peut pas comprendre, suite à ce que vient de dire Charlotte, qu'on n'a pas pu sanctuariser les moments de vacances scolaires, les fêtes de fin d'année, les fêtes religieuses aussi, comme par exemple l'Italie a pu le faire. Donc on a l'impression qu'on ne peut rien faire dans.
Mais est-ce que c'est un mauvais signal aussi qui est envoyé dans un contexte budgétaire quand même, qui est quand même extrêmement complexe et douloureux pour, à la fois pour l'État et pour les Français?
Mais évidemment, qu'on nous dit qu'on doit faire des économies au niveau de la dette, où on est en train de toucher justement aux chômeurs. Aujourd'hui, on donne encore à ce corporatisme. Donc, effectivement, le message est extrêmement catastrophique.
Mmh. Et un accord qui tombe la semaine où la France, justement, risque une dégradation de sa note, on le rappelle, par plusieurs agences de notation.
Mais même au-delà de la question globale ou macroéconomique et ce rapport à la dette et à l'effort, et même le rapport au travail, même en mettant tout ça de côté, ce qui est déjà un effort énorme, ouais. J'en conviens, mais même au-delà de ça, Emmanuel Macron a défendu cette réforme des retraites, c'était quasiment la seule chose qu'il avait envie de faire pendant son deuxième quinquennat, on avait bien compris, c'était vraiment l'enjeu absolu, etc. Et il avait vendu la chose en disant « je sais que c'est impopulaire, mais c'est absolument nécessaire que tout le monde fasse des efforts ». Donc jamais cette réforme n'a été vendue au prix de « vous verrez, c'est beaucoup mieux, vos vies seront plus ». Non, c'était vendu comme un effort. Et il se trouve qu'on apprend, elle a été passée au forceps, contre l'avis de beaucoup de gens, même à l'Assemblée, c'était très compliqué.
Et ça redonne de l'espoir aux opposants, cette réforme.
La réforme est adoptée et la première chose, c'est de créer un nouveau régime spécial sur le terrain des retraites pour la contourner dans une entreprise qui est déjà régulièrement ciblée pour ses régimes spéciaux. En termes de compréhension et d'égalité, puisque la sacro-sainte égalité nous est sortie à toutes les sauces, sauf apparemment quand il s'agit de faire des efforts à tout le monde. Et encore une fois, je le dis, c'est pas une question de privilège des uns par rapport aux autres. C'est si nous devons tous faire des efforts, à quel moment certains doivent en faire plus que d'autres. Simplement parce qu'ils ont une monnaie d'échange qui est effectivement très handicapante par rapport à d'autres travailleurs qui travaillent extrêmement durement et qui, eux, n'auront jamais cette monnaie d'échange.
Alors,
c'est parfaitement injuste.
Qu'en pensent nos auditeurs d'Europe 1? Vous êtes très nombreux à réagir sur le sujet. On entendra Alain, qui nous écoute dans les Alpes-Maritimes dans quelques instants. À tout de suite sur Europe 1.
De 13h à 14h, vous écoutez Céline Giraud sur Europe 1.
Europe 1, le journal permanent.
13h31 sur Europe 1 avec vous, Céline Giraud.
Le syndicat majoritaire des contrôleurs aériens lève son préavis de grève pour demain. Un mouvement qui s'annonçait massivement suivi. Un accord a été trouvé, a expliqué l'organisation à l'issue d'une conciliation de dernière minute la nuit dernière avec la Direction générale de l'aviation civile. Quelques perturbations malgré la levée de ce préavis de grève selon le ministère des Transports qui salue un accord gagnant-gagnant. Les obsèques de Philippe Kopmann, battu à mort la semaine dernière à Grande-Synthe, seront célébrées cet après-midi à 14h30. Près de 1500 personnes sont attendues, selon la mairie qui prévoit une mobilisation aussi forte que lors de la marche blanche. Entre 1300 et 3300 postes supprimés au sein du groupe Casino, repris par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, qui présente un plan de réorganisation aux représentants du personnel. 500 postes pourraient être supprimés au siège du groupe à Saint-Étienne. Incertitude sur le nombre de magasins et d'entrepôts qui doivent trouver preneur d'ici le mois de septembre. Quel avenir pour Duralex ? Le tribunal de commerce d'Orléans doit se prononcer sur le possible redressement judiciaire du verrier français. L'entreprise espère trouver un repreneur et sauver son usine qui emploie 230 salariés. Enfin, le PSG peut remporter un 12e titre de champion de France dès ce soir. Les Parisiens se déplacent à Lorient en match en retard de la 29e journée. En cas de victoire, et si Monaco ne bat pas Lille, ils peuvent être sacrés champions de France. Coup d'envoi à 19h.
13h32 sur Europe 1, le débat continue dans Europe 1 13h avec vous aujourd'hui. Céline, la journaliste au Journal du Dimanche, Charlotte Dornelas, et l'essayiste Naïma M. Fadel.
Et Alain qui est avec nous en direct dans Europe 1 13h. Bonjour Alain.
Bonjour.
Merci
mesdames.
D'être avec nous. Vous nous écoutez dans les Alpes-Maritimes et vous vouliez réagir hein, sur cet accord qui a été trouvé donc avec la SNCF et les cheminots, les contrôleurs.
Oui, je dois dire que ça frisait un peu la sidération, bien que en fait il faille s'attendre à ce qu'il se passe des négociations de cet ordre-là, enfin ce que les syndicats appellent une négociation, j'appellerais plutôt ça une forme de chantage. Pur et dur.
Ah oui, pour vous, c'est du chantage avec les jeux ?
Ah, c'est clair, c'est très clair. Et je pense que ça ne sera pas les derniers. On voit très bien qu'il y a un certain nombre de problèmes qui ne sont pas réglés avec les Jeux Olympiques. Et il est clair qu'un certain nombre de gens vont profiter de ce moment-là pour faire en sorte de faire aboutir des négociations, des revendications qui traînent depuis des mois. Enfin, ce qui est quand même assez troublant dans cette affaire-là, c'est qu'il y a quand même un actionnaire, qui est l'actionnaire principal de la SNCF, que nous connaissons tous. On sait très bien, en fait, comment ça va se traduire, puisque ça va se traduire forcément par le fait que le contribuable, à un moment, va payer. Et alors, si j'ai bien entendu l'information, on va avoir des gens qui vont non pas partir à la retraite, mais mettre en disponibilité, c'est même pas disponibilité, puisque je comprends qu'on les rappellera jamais.
Cessation d'activité, c'est ça le terme exact.
Cessation d'activité, ça c'est absolument extraordinaire. C'est un nouveau régime qui démarre. Bon, moi j'avoue que là, c'est effrayant. Ouais. Alors quand on voit qu'évidemment les aiguilleurs du ciel en profitent, moi je dois dire que le peu de courage de l'exécutif est assez inquiétant, parce que en fait il y a des mois et des années qu'on aurait dû faire d'abord voter un texte expliquant à tous ces syndicats que en fait je remets pas en cause du tout le jeu des syndicats, je crois que c'est absolument indispensable dans le système démocratique dans lequel nous sommes. Pour autant, comment peut-on tolérer qu'à chaque vacances, qu'à chaque long week-end, on ait immédiatement un préavis de grève qui soit déposé, préalablement, voire deux mois avant, pour expliquer que tout va s'arrêter, que les gens ne vont pas pouvoir partir, que ça soit en avion, que ça soit en train. Enfin, c'est complètement aberrant.
Vous avez raison, Alain. Merci beaucoup. Vous nous écoutez dans les Alpes-Maritimes. C'est vrai que c'est ce que vous disiez, Naïma. Oui. Voilà, les usagers sont pris en otage et on n'arrive pas à anticiper, alors qu'on le sait effectivement. Et ce que dit Alain est vrai. Ça a fait des années.
Une espèce de fatalisme. L'état de droit dont on nous parle, on nous bassine aujourd'hui, ne fait pas. En tout cas, ne répond pas aux difficultés que rencontrent les Français et on laisse faire les choses, et ça depuis des années. Je voudrais juste rappeler qu'en 2022, il a été versé par l'État et les régions à la SNCF 20 milliards d'euros. 20 milliards, vous imaginez?
Et quand on entend effectivement le ministre des Transports qui dit que c'est un accord gagnant-gagnant concernant l'accord qui a été trouvé avec les aiguilleurs du ciel, c'est quand même...
Le problème, c'est que ça devient incompréhensible dans les deux cas, parce que là, on a bien vu dans la réaction, juste avec une dose de bon sens, on se dit la veille des vacances, ça touche absolument tout le monde. Donc c'est même pas, on peut être en désaccord sur qu'est-ce qu'il faut accorder ou non sur le travail, sur le rapport à la retraite, même sur cette réforme des retraites, et comprendre que en France, encore une fois, par rapport à nos voisins européens, on a un rapport à la grève qui est maladif. Enfin, je veux dire, c'est pas possible qu'à chaque fois ce soit systématiquement
vraiment sur le terrain du chantage, parce que évidemment, on nous dit non, mais pas du tout, c'est pas une prise d'otage, ça n'a rien à voir. Mais alors pourquoi ces grèves se font systématiquement sur le dos des vacanciers? C'est évidemment parce que le gouvernement ne peut pas se permettre d'avoir les vacanciers à dos, donc il lâche petit à petit. Mais là, c'est un engrenage complètement fou.
Et c'est ce que dit Alain, il dit ça va donner sans doute des idées à d'autres corporations de rentrer dans la danse.
C'est ce qu'on disait pendant la pause. Imaginez un quart de seconde que les magistrats ou les policiers, alors je sais qu'ils ont un droit de réserve et que ça ne se passe pas de la même manière, enfin ils pourraient tous se mettre en arrêt maladie, on a déjà vu ça, à la veille des Jeux Olympiques, vous imaginez ça? Pourquoi ne le font-ils pas? Parce qu'ils ont un rapport aussi à leur métier et au service qu'ils rendent, dans une certaine mesure, ce qui est aussi le cas pour les gens qui nous transportent, c'est vrai, qui ne leur permet pas de négocier à n'importe quel prix. Par ailleurs, quand on invoque le droit de grève, certes, c'est un droit en France, c'est un droit qui est absolument légitime et légitimé d'ailleurs par l'histoire et sa mise en place. Simplement, c'est pas le droit qui est en haut de la pyramide de tous les droits humains. Enfin, je veux dire, c'est normal qu'on se pose la question des limites, surtout quand ça revient en permanence au moment des vacances ou là, à la veille des Jeux Olympiques, où clairement, encore une fois, on ne peut pas se permettre. C'est impossible.
Charlotte, ça interroge même aussi le service public.
Ah bah oui, c'est ça, bien sûr.
C'est la question aussi de la continuité de ce service bien à la population. Et encore une fois, nous payons nous. Donc aujourd'hui, il faut l'interroger. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas remettre en cause, je vous le dis franchement, le service public est effectivement privatisé, comme d'autres pays l'ont fait, parce qu'aujourd'hui, on ne se retrouve pas.
Ouais. Oui, ce 13h38. Non plus.
Voilà, il y a beaucoup de sujets, évidemment, dont j'aimerais beaucoup parler avec vous, Naïma Mfadel, Charlotte Dornelas, notamment ce sondage, Harris, pour le magazine Challenge. 38% des électeurs musulmans ont indiqué lors de ce dernier sondage leur intention de voter pour la liste portée par Manon Aubry, contre 5% pour la liste du Rassemblement National. Sans surprise, les intentions de vote des électeurs musulmans, une bonne partie est prête à voter pour la France insoumise.
Il faut juste préciser ceux qui votent.
Oui.
Parce qu'on sait que le taux d'abstention, notamment dans les quartiers, il est le plus important. Et parfois, il avoisine les 80-90%. Pour vous donner juste un exemple,
c'est vrai que c'est
beaucoup. Clémentine Autain n'a été élue que par 12% des personnes qui se sont déplacées. C'est-à-dire 12 personnes des inscrits qui se sont déplacées pour effectivement voter.
Vous ne croyez pas un sursaut pour ces élections européennes?
Alors moi, je pense qu'il peut y avoir un sursaut. Je vais vous dire clairement les choses. Alors après, est-ce qu'ils sont inscrits ou pas? Parce qu'on a aussi un taux d'inscription sur les listes électorales qui est en deçà de ce qu'on peut attendre. Mais c'est vrai que le sujet de la Palestine...
Voilà, j'allais vous le dire.
Ils ont, aujourd'hui, la campagne électorale, et c'est ça qui peut, c'est là où le bât blesse, qui doit être sur des enjeux européens, eh bien, ils en ont fait... un outil autour de la Palestine et du conflit israélo-palestinien et de ce qui se passe à Gaza.
C'est l'une des premières préoccupations des électeurs après le pouvoir d'achat, la santé et l'emploi.
Oui, mais vous voyez, on laisse faire en fait. Aujourd'hui, est-ce que c'est normal que dans le cadre de cette campagne électorale, on instrumentalise et qu'on présente Rima Hassan avant tout comme une franco-palestinienne et que LFI ne parle que de la Palestine. C'est ça, c'est là où c'est dérangeant.
C'est ce que disait Louis Dragnel, le chef du service politique récemment sur notre antenne.
Et c'est pour ça qu'effectivement, ça peut faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de votants. À voir, parce que ça va être extrêmement intéressant, parce que vraiment, ils ciblent aujourd'hui le public effectivement musulman.
Charlotte Dornelas, sur ce, effectivement, cet électorat.
On a encore une fois une campagne électorale qui est contournée, et d'ailleurs, LFI, ils ne sont pas les seuls à aller sur des dossiers qui ne sont absolument pas les dossiers premiers.
C'est une des premières fois qu'on assiste à des débats qui n'ont rien à voir avec le sujet.
Après, on a fait toute une présidentielle sur la guerre en Ukraine, donc toute une campagne électorale pour la présidentielle sur la guerre en Ukraine. Au bout d'un moment, il ne faut pas, s'étonner de l'abstentionnisme, parce que si on vous interroge en permanence sur des sujets qui n'appartiennent pas aux gens que vous allez élire, au bout d'un moment, pourquoi se déplacer? C'est la première chose. Et la deuxième chose, la perte de confiance, voire même la distanciation par rapport au personnel politique qui a on finit par avoir l'impression que systématiquement, pour gagner, il doit faire un pas de côté. C'est vrai aujourd'hui avec la question de la France insoumise qui clairement transforme l'élection européenne en référendum pour ou contre la Palestine, comme si par ailleurs la question était légitime posée comme ça, comme si c'était aussi binaire que ça. Donc ils alimentent aussi une forme de radicalité, on va dire, dans le positionnement dans ce conflit-là. Et à cette aune-là, moi, les 38% m'ont assez étonnée par leur faiblesse, je vais vous dire.
Oui,
parce que si ça ne se joue que sur la question de la Palestine, qui est en soi, ou même le soutien, parce que dans le détail, c'est l'interrogation sur le conflit israélo-palestinien et la préoccupation pour les habitants de Gaza. C'est des préoccupations légitimes. Mmh. Donc c'est pas scandaleux en soi que les gens soient préoccupés par ça et qu'ils le soient plus en raison de leur proximité religieuse avec la majorité des habitants de Gaza. Et donc c'est assez faible par rapport à ce que peut imaginer la France insoumise, et même par rapport aux chiffres qu'on avait constatés à la présidentielle, qui étaient plus élevés que ça. Donc là, moi, à la place de la France insoumise, je serais assez surprise, on va dire, par ce résultat.
La France insoumise qui fait l'actualité, décidément, puisque Mathilde Panot a été convoquée par la police dans le cadre d'une enquête pour apologie du terrorisme. Alors, les différentes formations de gauche ont apporté leur soutien aux insoumis, et Jean-Luc Mélenchon, lui, s'en prend aux associations amies de Netanyahou, Naïma M. Fadel.
Écoutez, moi, LFI, comme je vous l'ai dit, ils ont choisi de faire leur campagne autour du sujet de la Palestine en n'étant pas juste dans la manière de qualifier les choses. Rappelons-nous qu'ils se sont empressés de dire que c'était des résistants, que le Hamas était des résistants. Rappelons-nous, ce qui vaut, je crois, à Madame Panot d'être convoquée pour apologie du terrorisme, sa déclaration, enfin la déclaration,
le communiqué du 7 octobre.
Du 7 octobre, quand même, qui
est
extrêmement grave. C'est quand même l'armée de défense des Palestiniens a répondu, enfin a réagi aux attaques en Cisjordanie. Je ne sais plus exactement le communiqué, mais on voit bien qu'on travestit la réalité. Et c'est extrêmement scandaleux, parce que vous savez...
Elle mettait en parallèle l'attaque du mouvement islamiste du Hamas, décrite comme une offensive armée de forces palestiniennes et l'intensification de la politique d'occupation israélienne dans les territoires palestiniens.
C'est extrêmement grave, c'est extrêmement grave. On voit bien que cette déclaration avait pour but, avant tout, de fracturer notre pays, d'en rajouter... je veux dire, à la fracture qu'on connaît notre pays et à mettre à mal, encore une fois, la cohésion nationale. Après, quand je dis ça, il est évident que moi, je renvoie aussi un peu à ce que Netanyahou savait parfaitement que le Hamas était un groupe terroriste. Il connaissait parfaitement la charte du Hamas, qui voulait la destruction d'Israël et plus aucun juif en Israël. Donc, il a fait aussi le jeu pour, ensemble, que ce soit le Hamas ou Netanyahou, s'asseoir tout simplement sur les accords d'Oslo. Après, pour en revenir à LFI, moi je trouve vraiment cette instrumentalisation insupportable. Et puis concernant donc la convocation de Madame Panot, je vais être honnête avec vous, c'est un peu l'arroseur arrosé, parce qu'ils n'arrêtent pas eux de mettre à mal l'expression et pas vouloir la liberté d'expression.
Et la France insoumise qui se pose en victime de cette répression politique.
Moi, c'est ça qui m'a le plus marqué, parce que je suis partisane d'un débat politique qui soit suffisamment large pour qu'on puisse répondre avec des arguments, d'autant que là, ils sont quand même relativement évidents à avancer par rapport à la communication de la France insoumise. Je préférerais vraiment qu'on ait un débat politique qui se tienne, qui soit possible sur tous ces sujets-là et qu'il soit possible de leur répondre. Pour ça, il faut deux choses. Un, que nous acceptions tous d'être adultes dans notre rapport au débat. Deux, que toutes les parties... qu'on aimerait voir débattre, accepte de débattre avec les uns et les autres dans le jeu politique. Ce que refuse de faire la France insoumise avec une partie de l'échiquier politique ou idéologique de ce pays d'une part, et ensuite les voir en effet depuis trois jours appelés à la censure, parce que c'était la même chose sur la conférence. Il y a de fait des gens en désaccord total avec eux, qui les ont soutenus dans cet appel à la liberté de l'expression de tous dans le débat politique. Eux, un, ne le font jamais, et deuxièmement, ont la plainte extrêmement facile. Ils dégainent des plaintes sur le terrain politique ou idéologique extrêmement rapidement. Donc si cet appel à lutter contre la censure pouvait devenir un principe chez la France insoumise et non pas seulement une préoccupation quand ça les concerne, là on avancerait. J'ai un petit doute sur l'issue de cette séquence. Voilà.
On va évidemment continuer à dérouler l'actualité avec vous, Charlotte Donnella. C'est Naïma M. Fadel. Dans quelques instants, on va revenir sur justement le discours de Macron, d'Emmanuel Macron, prévu à la Sorbonne demain pour les européennes. Le couvre-feu aussi pour les mineurs. Nice, Béziers, Perpignan, ces maires qui veulent serrer la vis. Qu'en pensez-vous? Venez réagir 01 80 20 39 21.
Il est 13h46. Vous écoutez Céline Géraud de 13h à 14h sur Europe 1.
Europe 1.
Europe 1 13h.
Bon début d'après-midi sur Europe 1 avec Céline Giraud. Et aujourd'hui, vous entourez Naïma M. Fadel et Charlotte Dornelas.
Et on poursuit évidemment le décryptage de l'actualité avec vous, chers auditeurs d'Europe 1, 01 80 20 39 21. Je voudrais revenir avec vous sur ce bras de fer acharné, on peut le dire, hein, puisque le projet de loi sur l'asile et l'immigration a été adopté par le Parlement britannique hier. Hein, les premiers vols de demandeurs d'asile vers le Rwanda sont prévus dans 10 à 12 semaines. Est-ce qu'avec cette loi, Charlotte Dornelas, sous-traiter la politique migratoire et payer un gouvernement extérieur pour accueillir ces demandeurs d'asile, ça peut être une solution?
Bah, c'est une solution qui a été imaginée par la Grande-Bretagne et quand on regarde dans le détail, on comprend qu'en effet, il y a plein de gouvernements qui commencent à se poser la question de comment, dans ce qui nous est permis, comment contourner le droit d'asile tel qu'il est pensé aujourd'hui. Pas le principe du droit d'asile, c'est-à-dire accueillir initialement des réfugiés politiques en danger de mort pour les idées qu'ils défendent dans leur pays d'origine, mais simplement l'idée qu'aujourd'hui, le droit d'asile, par le biais de la Convention de Genève, hein, c'est pas en l'occurrence un texte européen, mais c'est le droit international, par la Convention de Genève oblige à un traitement individuel des dossiers à partir du moment où vous avez mis le pied sur le pays de destination, en l'occurrence la Grande-Bretagne, mais c'est la même chose en Europe. Et là, ils vous disent, pour contourner ça, pourquoi pour le contourner? C'est-à-dire qu'une fois que vous examinez ces dossiers-là, là on a le même problème en France, les gens qui sont déboutés du droit d'asile ne repartent pas parce que l'organisation de l'expulsion ou de l'éloignement se fait très mal. Là, le gouvernement britannique dit, partant de ce principe-là, les gens qui rentrent sans avoir le droit initialement de rentrer pour faire leur demande d'asile devront être dans un pays étranger et loin de la Grande-Bretagne, même géographiquement. Donc on comprend bien que c'est pour contourner la manière dont aujourd'hui est traité le droit d'asile, c'est-à-dire des cas individuels qui par ailleurs ne sont pas suivis d'effet quand ils sont déboutés.
On comprend que le nombre de migrants qui vont vers le Royaume-Uni a augmenté de 20%. Hein,
c'est ça, il y a une augmentation considérable du nombre de gens qui rentrent et par ailleurs il est interdit aujourd'hui de considérer même des zones extraterritorialisées sur le terrain du droit à l'intérieur de l'Europe. On l'avait vu, c'était une des discussions au niveau européen aujourd'hui. Donc on voit bien qu'il y a plusieurs gouvernements qui se posent la question en se disant, plutôt que de discuter par rapport à la réalité de la situation des outils juridiques que nous avons à notre disposition, on essaye de contourner par tous les biens possibles.
Une enveloppe aussi budgétaire, je le rappelle,
et qui coûte extrêmement cher, évidemment.
Livres sterling.
Et qui coûte extrêmement cher. Et cela dit, l'Union européenne se pose les mêmes questions quand elle délègue à la Libye, tout en nous expliquant que c'est pas un port sûr. Quand elle délègue plus récemment à la Tunisie. Donc il y a une hypocrisie immense plutôt que de se poser la question de nos capacités seulement. Hein. Oui. Je parle de nos capacités à accueillir encore.
Naïma M. Fadel, hein, sur cette stratégie, on peut le dire.
Écoutez, ils essayent de faire ce qu'ils peuvent. Hein. L'Australie, d'ailleurs, l'a fait sur l'île de Nauru, où effectivement, il renvoie les migrants là-bas. Et autre chose qu'ils ont fait, et qui est très important, c'est qu'ils dissuadent. Ils disent que toute personne qui pose le pied en Australie, sans être d'une manière illégale, ne pourra jamais être régularisée. Donc, c'est des messages forts qui sont donnés. Je crois que Charlotte a parlé de la capacité. Mais c'est aujourd'hui, par exemple, pour parler de la France, on n'est plus en capacité d'accueillir. Ce n'est plus possible. L'hébergement d'urgence est saturé et il est saturé au détriment des personnes qui vivent légalement en France et puis des Français. C'est plus possible. Vous avez aujourd'hui même les DALO, les droits opposables au logement, qui ne sont plus prioritaires, puisque dans le cadre du pacte asile et immigration, vous devez forcément accueillir, loger et nourrir. Donc il y a un problème aussi de capacité. Quand vous rajoutez à ça toute la politique autour des mineurs non accompagnés, où aujourd'hui, la plupart, d'ailleurs 80% sont déboutés, mais ils ne partiront jamais, parce que c'est ça les difficultés, qu'on ne peut pas accueillir. Et puis, il y a les répartitions. Aujourd'hui, on fait dans notre pays une répartition par groupe, par communauté, ce qui pose un problème. Parce que comme il y a des conflits inter-communautés, on les répartit parfois 100 personnes et on n'a aucune capacité à les insérer, à les accompagner et encore moins à assimiler.
13h52, on est ensemble jusqu'à 14h. Le dernier sujet que je voulais aborder avec vous, c'est le couvre-feu pour les mineurs. Un couvre-feu donc pour les mineurs de moins de 13 ans qui a été instauré à Béziers et Nice désormais qui suit l'idée, qui va l'instaurer dès le 1er mai. D'autres maires aussi en France veulent franchir le pas. Bonne ou mauvaise idée? Qu'en pensez-vous?
Je sais pas, moi je poserais la question différemment en fait aux gens qui nous génèrent des débats quand même dont on pourrait se passer vu le nombre de vrais problèmes qu'on a. Est-ce qu'il est normal qu'un mineur de 13 ans soit seul à 1h du matin dans la rue? rue. Je pense que n'importe
quel... C'est ce que dit
quel...
Robert Ménard. Hein,
mais je pense que n'importe quel parent un peu attentionné par rapport à ce que font ses enfants à nuit répond non.
Donc on responsabilise les parents en faisant ce couvre-feu ou pas ?
C'est-à-dire qu'on aide, c'est-à-dire que tous les parents qui ont un suivi réel de leurs enfants les empêchent de sortir à 13 ans, et tous les parents dont on nous dit qu'ils sont dépassés par des mineurs, qui les dépassent complètement dans l'éducation, on les aide. Parce qu'il n'y a pas un mineur en France qui a une raison à 13 ans d'être dehors à 1h du matin. Je suis désolée, je ne la vois pas en fait. Je ne la vois pas même avec toute la meilleure volonté du monde, franchement.
Muriel est avec nous, auditrice d'Europe 1 qui nous écoute à Nice. Bonjour Muriel.
Bonjour, merci de la question que vous allez poser et de l'intérêt que vous y portez.
Qu'en pensez-vous, vous, Muriel ? Les couvre-feux.
Merci. Alors, ce que je pense du couvre-feu, c'est que d'une part, on est arrivé à une extrémité, que d'autre part, effectivement, il faut que la société ait un lien d'autorité et de rappel et de protection de l'entièreté de la population. Effectivement, ce sont des jeunes qui ont échappé à tout et auxquels il faut absolument qu'on rappelle les normes, les règles pour qu'ils ne continuent pas de perdre leur vie.
Donc pour vous, c'est une bonne idée parce que vous habitez à Nice, donc ça veut dire dès le 1er mai, les enfants de moins de 13 ans ne pourront plus sortir.
C'est une bonne idée, oui. Les enfants de 13 ans et d'autres enfants, il n'y a pas de stigmatisme sur le fait d'avoir 13 ans parce qu'il y a des 10 ans, faut pas les oublier.
Oui, c'est moins de 13 ans.
Il y a même
pire,
de tout petit.
Ouais. C'est vrai, vous avez raison.
C'est-à-dire qu'il y a une population qui est oubliée, absolument oubliée. Alors, on va stigmatiser l'enfant parce que c'est celui vers lequel a tout transité et puis qui est en rébellion en réalité. Et il y a tout l'environnement de la société qui est dans un abandon total. Et que le maire prenne ses dispositions, c'est une disposition sécuritaire, beaucoup pour les populations, les autres. Nous-mêmes.
Il prévoit d'ailleurs, Christian Estrosi, je vous coupe Muriel, d'étendre ce dispositif dans certains quartiers dont les trafics de drogue dans les points de deal sont bien identifiés.
Il a parfaitement raison, et quand on vit à Nice, on les connaît, ces quartiers. La seule particularité, c'est que ces quartiers maintenant sont envahis, ces quartiers envahissent des quartiers qui étaient supposés bourgeois. En réalité, moi j'habite dans le quartier qui s'appelle Musicien et qui est à côté de la gare, et qui est très proche de la promenade des Anglais. Et nous avons absolument régulièrement, c'est quelque chose que les gens ne veulent pas dire parce qu'on est en dépréciation immobilière de tout ce que vous voudrez, mais en réalité, on a l'invasion de toutes ces populations qui arrivent. Je ne voudrais pas que ma manière de m'exprimer soit dépréciative. Je suis profondément égalitaire. Mais
vous êtes pour les couvre-feux, donc ?
Oui.
Définitivement. Merci beaucoup, Muriel. En tout cas, votre message est bien passé, Naïma Mfadel.
Non, mais je pense que le problème, c'est qu'on ne s'attaque jamais aux causes. On est toujours en réaction.
Oui, moi, on est dans la répression.
Non, mais moi, ce que je souhaiterais vraiment, c'est qu'aujourd'hui, on prenne le temps de renverser, en fait, la table. Ça fait des décennies que ça a commencé. Pour moi, il faut revoir complètement la politique familiale en France, qu'elle se base sur les droits et les devoirs. Et qu'elle conditionne, en fait, tout simplement les allocations familiales. Vous avez des possibilités aujourd'hui, grâce à l'aide sociale à l'enfance, d'accompagner les parents qui ont des difficultés pour éduquer leurs enfants. Mais vous avez aussi la possibilité, grâce aux allocations familiales, de pouvoir impacter des sanctions financières sur les parents qui sont
pour responsabiliser les parents.
Mais bien
donc.
Évidemment, il faut arrêter. On est un pays extrêmement généreux. On a du mal à se dire, effectivement, on a un État-providence, mais en face de ces droits, on doit absolument mettre les devoirs. Parce qu'on sauve des gamins et on aide des familles. Et c'est pour ça qu'il faut arrêter les cris d'orfraie. Le Danemark, pays sociodémocrate, l'a fait aujourd'hui. Il conditionne les allocations familiales avec des résultats extrêmement important et efficace.
Mais ces couvre-feux, effectivement, ça risque de faire mouche, d'intéresser d'autres villes, et le gouvernement même se dit pas opposé à cette idée.
Non, mais parce que honnêtement, je vois pas. En fait, je retournerai toutes ces vies. C'est la Ligue des droits de l'homme là qui a expliqué qu'elle avait porté plainte au nom de l'État de droit. Donc quel est le principe qui fait qu'il faut absolument que des mineurs, et cette dame avait raison de rappeler que moins de 13 ans, ça veut dire potentiellement 8 ans, 9 ans, exact. 10 ans. Quel est le droit de ces enfants à être seuls dans la rue à minuit? C'est dangereux pour eux, c'est dangereux potentiellement pour les autres quand eux-mêmes sont dangereux pour les autres. Je vois vraiment pas qu'est-ce qu'il y a à faire dans la rue à cette heure-là, quand on a cet âge-là, loin de son foyer, loin de son lit en l'occurrence, pour ce qui est de la semaine et même du week-end d'ailleurs, à 13 ans ou à 8 ans en général on dort à cette heure-là, et quand on voit les problèmes que nous avons des agressions, soit dont ils peuvent être victimes, soit dont ils peuvent être les auteurs à ce moment-là, je ne
comprends pas l'opposition à ça. Mmh. Certes, évidemment, je préférerais, je le précise quand même, je préférerais qu'on ait réglé les problèmes en amont pour pas en arriver à cette décision-là. Ça, on est d'accord, on devrait même pas avoir besoin de la prendre, la décision. Mais précisément, la loi est faite pour ceux qui ne la respectent pas. On la pense parce que des gens ne font pas le...
Lors des émeutes, vous aviez des gamins de 11 ans.
Bien sûr.
Merci beaucoup à vous deux, Naïma, M. Fadel et Charlotte Dornella. C'est passé très vite une fois encore. On se retrouve demain dès 13h avec vous, chers auditeurs d'Europe 1, pour un nouveau décryptage de l'actualité.
C'était Céline Giraud sur Europe 1 que vous retrouvez donc demain entre 13h et 14h. Un bon début d'après-midi avant de retrouver Christophe Ondelat pour On de la Traconte.